Daily de langue, l'émission qui décrypte la langue de tous les jours, c'est maintenant et jusqu'à 13h sur Prune.
I have something to tell you.
Bonjour à toutes et à tous, on est heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce nouvel épisode de Daily de langue, l'émission qui décrypte la langue et ses interdits. Aujourd'hui, nous sommes en équipe réduite puisque nous ne sommes que deux derrière les micros. Salut Baptiste.
Salut Arsène, en effet, on n'est que deux, mais j'espère que ça ne va pas nous empêcher de vous proposer un contenu de qualité.
En tout cas, on l'espère. Alors aujourd'hui, nous allons vous parler d'une institution presque mythique, dont le nom vous est forcément au moins familier. Le 14 novembre 2024, en face du musée du Louvre à Paris, il s'est passé quelque chose qui aurait semblé très étrange à un observateur extérieur. Le président de la République était reçu en grande pompe, tapis rouge à l'appui, dans une vaste salle coiffée d'une haute coupole. Là, une quarantaine d'hommes et de femmes d'un grand âge, vêtus de costumes verts brodés d'olives et d'un chapeau bicorne, et arborant chacun une épée minutieusement ouvragée, font leur entrée solennelle dans l'écho cérémonieux des roulements de tambour. Une fois ces graves personnages installés, un silence théâtral s'installe dans l'assemblée, alors que ce qui ressemble au chef de cérémonie prend la parole et déclame un long discours grandiloquent et tremblant de gravité historique, après lequel est remis au président un imposant ouvrage en 4 tomes que l'on manipule comme un texte sacré.
Je suis heureux et fier de me tenir parmi vous, sous cette coupole, pour cet événement singulier, l'achèvement de la 9e édition de votre dictionnaire avec la parution de son 4e tome.
Ces mots ont été prononcés par le président de la République lors de la remise du 9e dictionnaire de l'Académie française il y a quelques mois. En regardant la séquence, on se sent intimidé, écrasé par cette cérémonieuse et magistrale cérémonie, presque anachronique, comme si l'Académie française était une institution hors du temps, intouchable et inatteignable.
Et effectivement, le sujet, si vous ne l'avez pas deviné, dont on va parler aujourd'hui, c'est l'Académie française. Donc, l'image qu'on se fait de cette Académie, c'est souvent celle d'un endroit auguste où se rassemble l'élite de la nation pour nous éclairer de leur brillante lumière sur ce qu'est la langue française et la manière de l'utiliser à la perfection. Lors d'une discussion à propos d'un mot qui pose problème ou une expression qui fait polémique, on entend souvent la phrase « l'Académie française dit que » et toute discussion devient inutile, puisqu'on ne peut pas remettre en question l'autorité et la légitimité de cette institution suprême qui a nécessairement le dernier mot.
Vous-même, vous avez peut-être déjà consulté le dictionnaire de l'Académie, accessible en ligne, et ressenti la sensation que vous ne pouviez pas trouver de source plus officielle et plus fiable pour appuyer votre opinion sur tel ou tel mot qui vous posait problème. Mais si on vous disait que l'Académie pouvait se tromper, nous croiriez-vous ? Aujourd'hui, on va essayer de séparer le mythe de la réalité. N'ayons pas froid aux yeux. Nous entendons remettre en cause cette institution qui, si elle juge en permanence les évolutions linguistiques du français, est cependant rarement jugée elle-même.
L'Académie, ça sera notre fil rouge pour cette émission, et ça nous permettra de parler de plein de sujets, que ce soit la question de comment sont rédigés les dictionnaires, quels sont les enjeux politiques qu'il y a derrière, ou est-ce que l'Académie française a des collègues, des institutions cousines à travers le monde ou en France. C'est ce qui va nous préoccuper aujourd'hui.
Vous écoutez Daily de langue sur Prune.
Mais pour commencer, concrètement, qu'est-ce que l'on désigne quand on parle de l'Académie française ? Il s'agit d'une institution française, donc, qui a pour but de faire rayonner le français, de le préserver et de le perfectionner, ainsi que d'en fournir un dictionnaire de référence. Ce dictionnaire a pour but de définir le bon usage du français, d'indiquer quels mots employer pour parler un français correct. Et il fait office de référence en matière d'orthographe. Tous les documents officiels rédigés par l'État, les ministères et l'administration sont encouragés à suivre les recommandations de l'Académie française. L'Académie, c'est l'une des 5 académies de l'Institut de France, avec l'Académie des Belles-Lettres, des Sciences, des Beaux-Arts et des Sciences Morales, et elle siège au quai de Conti, dans le 6e arrondissement de Paris. L'Académie est une institution assez ancienne. Elle a été fondée en 1634 par le cardinal de Richelieu, et son objectif d'origine, énoncé par Louis XIII, le roi de l'époque, est de
« donner des règles certaines à notre langue et la rendre pure, éloquente et capable de traiter des arts et des sciences ».
Tout un programme. Pour ce faire, l'Académie est chargée de rédiger un dictionnaire, une grammaire, une rhétorique et une poétique de la langue française, 4 ouvrages censés entériner une vision globale du français tel qu'il devrait être parlé et écrit. L'Académie se concentrera en fait sur la rédaction de son dictionnaire dont elle publiera 9 éditions de 1634 à nos jours. L'Académie française se compose de 40 membres qui se réunissent chaque semaine sous la coupole pour débattre des questions de langue et prendre des décisions concernant son organisation et son travail de conception du dictionnaire. Les académiciens sont élus par leurs pairs, c'est-à-dire par les académiciens eux-mêmes, et restent en fonction jusqu'à leur mort. Et à ce moment-là, un nouveau membre est élu pour le remplacer. Les académiciens sont surnommés les immortels, en référence à leur devise « à l'immortalité », qui résume le projet de l'Académie française, faire du français une langue immortelle. Mais ce surnom a acquis une autre dimension. Le prestige associé au titre d'académicien permet d'accéder à une certaine gloire posthume et donc, en quelque sorte, à l'immortalité.
L'Académie, elle est censée rassembler l'élite de la nation, comme on l'a dit. Donc en théorie, n'importe qui en fait pourrait devenir et être élu académicien, indépendamment des titres, de la nationalité ou de l'orientation politique. Mais en réalité, c'est un peu plus compliqué. Les candidats doivent avoir une très bonne maîtrise de la langue française. Normalement, c'est le seul prérequis. Mais c'est bien aussi d'avoir reçu des prix littéraires, des récompenses ou autres. Ça aide beaucoup, en fait, à se faire élire. Au cours de l'histoire, l'Académie a réuni plus de 700 personnalités. Et on y retrouve beaucoup d'écrivains, très logiquement, parmi lesquels on a Voltaire, Victor Hugo, Alexandre Dumas, le fils, Paul Valéry, mais d'autres profils très divers, comme des historiens, des philosophes, des hommes d'église, et même des politiciens comme Georges Clemenceau, Michel Debré, Valéry Giscard d'Estaing, donc qui était ancien président français, mais aussi des figures plus contestées, on peut dire, comme le maréchal Pétain ou Charles Maurras, dont l'héritage est assez lourd à porter, comme vous le devinez, pour les académiciens d'aujourd'hui.
Tout au long de son histoire, l'Académie, elle a profondément influencé la politique linguistique de la France. On vous renvoie à notre épisode de février. Et elle a contribué à l'évolution de la langue française et de son orthographe. L'Académie, en parallèle, a aussi la fonction de décerner un certain nombre de prix littéraires, dont le Grand Prix de la littérature ou encore le Grand Prix du roman de l'Académie française, qui récompense chaque année les meilleurs ouvrages francophones selon l'Académie.
Vous écoutez Daily de langue sur Prune.
Maintenant qu'on a une idée un petit peu plus précise de ce que c'est l'Académie, on va regarder un peu ce qui cristallise le rôle des immortels et de leur influence sur la langue, le dictionnaire de l'Académie. Concevoir le dictionnaire, c'est leur principale mission. C'est l'organe par lequel ils expriment leurs recommandations orthographiques et donc leur vision de la langue. Le premier dictionnaire de l'Académie a été publié en 1694, donc 60 ans après leur fondation. Cette première édition comporte 26 000 mots, ce qui n'est pas énorme pour un dictionnaire. Après, les différentes éditions sont parues tous les 25 ans et elles ont progressivement étoffé le lexique qu'elles utilisaient. L'apparition des dictionnaires a rythmé l'évolution de la langue française et a contribué à façonner son orthographe. Par exemple, l'Académie a souhaité conserver les traces de l'origine des mots en dotant le français d'une orthographe très étymologique, qui est donc moins phonétique. Donc, si on prend un exemple, ça veut dire que la forme s'éloigne de leur prononciation. Des mots comme philosophie, physique ou photographie, qui sont écrits avec PH pour retranscrire le son F, c'est une référence directe à leur origine grecque. Ça, c'est un choix délibéré, c'est une volonté de retranscrire ça pour montrer l'héritage du grec. Alors que dans d'autres langues, par exemple comme l'italien ou l'espagnol, ça a été décidé autrement et les différentes standardisations ont fait qu'on a écrit avec un F. On écrit fotografia en italien avec 3 F. 2, pardon, je ne sais pas compter. Au lieu du PH de photographie en français. Donc nous, on a trouvé que c'était très élégant de montrer que les mots viennent du grec, même si ça complique un peu notre système orthographique. Mais donc Sauf que ça a posé quelques petits problèmes après et des incohérences. Par exemple, le mot nénuphar qui est écrit avec PH, c'est parce qu'on pensait qu'il venait du grec, mais en fait, il vient de l'arabe et normalement, on écrit avec un F. Voilà, c'est des petites erreurs de parcours, mais c'est quelque chose qui est assez amusant.
On se demande souvent pourquoi la langue française est si compliquée. Bah, les dictionnaires de l'Académie, ils ont grandement contribué à cette complexité. Néanmoins, les immortels ont également entériné certains changements importants de la langue française et ils ont suivi, tant bien que mal, ces principales évolutions au fil de leur dictionnaire. Pour vous donner une idée, à l'époque de la première édition, le mot roi s'écrivait encore avec un Y et le mot français s'appelait François. Ces graphies anciennes ont été modifiées par la suite dans les éditions successives. L'Académie a donc globalement suivi les différentes évolutions du lexique et les changements orthographiques de la langue, mais toujours avec une certaine méfiance vis-à-vis de la nouveauté, et donc un temps de retard par rapport à l'évolution effective du français.
Donc la 8e édition du dictionnaire de l'Académie est parue en 1935. C'est le seul dictionnaire qu'ils ont publié pendant le 20e siècle. Il contient environ 32 000 mots, donc c'est un nombre qui est toujours assez faible pour un dictionnaire qui doit servir de référence. À la même époque, l'Académie essaye aussi de concevoir, ce qui normalement fait partie de ses missions principales, de concevoir une grammaire. Donc c'est un ouvrage qui doit décrire les mécanismes et le fonctionnement grammatical du français. Il le publie en 1932. Même s'ils vont avoir un bel accueil en termes de vente et que ça va bien marcher, ce sera très mal reçu par la communauté des linguistes qui vont dénoncer une grammaire qui est très approximative, qui est assez floue, incomplète, voire anachronique. On peut citer Ferdinand Bruno, qui était linguiste et professeur d'université, qui va publier l'année suivante un ouvrage qui est intitulé « Observations sur la grammaire de l'Académie française », où il va se livrer à une critique méthodique et nourrie de nombreux exemples. Dans sa préface, il écrit
« L'ouvrage que l'Académie vient de faire paraître a redonné à tant de vieilles erreurs une autorité nouvelle, il en a répandu tant d'autres que la nécessité d'en préserver le public m'a paru urgente. »
C'est donc un succès très mitigé pour les académiciens, dont la légitimité en prendra un coup. C'est qu'au début des années 80 que l'Académie va commencer à plancher sur la 9e édition, qui paraît progressivement en 1992 pour le tome 1, jusqu'à fin 2024, donc en novembre 2024 précisément, pour le 4e et dernier tome dont on a entendu Emmanuel Macron parler.
Cette 9e édition, il faut le reconnaître, elle est beaucoup plus complète que la précédente. Environ 53 000 mots y sont définis, soit près de 20 000 mots supplémentaires par rapport à la 8e édition. Parmi ceux-là, on retrouve notamment des noms de métiers féminisés comme écrivaine, autrice ou encore chercheuse. L'Académie, après avoir violemment critiqué ces termes féminisés depuis les années 80, a finalement acté leur usage en 2019 dans un communiqué où elle les juge finalement acceptables. Pour autant, aux yeux de plusieurs observateurs, le 9e dictionnaire de l'Académie, malgré les progrès incontestables qu'il a fait, reste largement incomplet. Pour les linguistes atterrés, un collectif de linguistes formé en 2023, ce dictionnaire fraîchement publié est en réalité déjà périmé. Certains mots, pourtant devenus courants en français, ils sont totalement absents. Si vous recherchez coronavirus, féminicide, smartphone ou même daron sur le dictionnaire de l'Académie, vous ne trouverez absolument rien. Pourtant, ces mots, est-ce qu'on peut encore prétendre qu'ils n'existent pas en français ? Qu'est-ce qui pousse un dictionnaire à inclure ou exclure tel mot parmi le lexique qu'il tente de décrire ?
Ça, c'est des questions passionnantes et très importantes, mais avant d'y répondre, on va s'accorder une petite pause musicale avec Alain Bashung. On va écouter le titre « Immortel » en référence évidemment à nos chers amis de l'Académie française.
Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortel, pour là es-tu parti avant que je te l'apprenne. Le savais-tu déjà? Avais-tu deviné que des dieux se cacher sous les faces avinées. Mortel, mortel, nous sommes immortels. je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu vu ces lumières, ces pourvoyeuses d'été? Ces leveuses de barrières, toutes ces lampes épuisées, les baisers reçus, savais-tu qu'ils duraient? Quand se mordant la bouche, le goût en revenez. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels. As-tu senti parfois que rien ne finissait et qu'on soit là ou pas, quand même on y serait. Et toi qui n'es plus là, c'est comme si tu plus immortel que moi, mais je te suis de près. Mortel, mortel, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, nous sommes immortels. Mortels, mortels, nous sommes immortels. Je ne t'ai jamais dit, mais nous sommes immortels.
Nous venons d'écouter la chanson « Immortel » de Alain Bachung. Les immortels, c'est donc le surnom des académiciens qui, pour rédiger leur dictionnaire, doivent faire leur choix d'inclure ou non certains mots. Et c'est souvent une décision assez délicate, quel mot garder et quel mot écarter.
C'est le genre de questions auxquelles doivent réfléchir ce qu'on appelle les lexicographes. De lexique, dictionnaire, et graphe, qui écrit. Un lexicographe, c'est donc une personne qui participe à l'élaboration d'un dictionnaire. C'est un processus long et minutieux à cause de la très grande quantité de mots à définir, mais aussi à cause de la difficulté de rédiger des définitions qui incluent avec précision tous les sens possibles que peut prendre un même mot en fonction des contextes. Mais ce travail induit donc un certain nombre de choix qui dépendent de l'objectif visé par les concepteurs du dictionnaire. En lexicographie, il existe deux tendances qui s'opposent, deux manières différentes d'aborder la langue et sa description. Le prescriptivisme et le descriptivisme. Ce qu'on appelle prescriptivisme, c'est la volonté d'établir des règles qui définissent l'usage correct de la langue. Elle vise à prescrire une manière de parler qui est jugée meilleure que les autres et qui peut porter sur l'orthographe, sur la grammaire, sur le lexique de la langue. Par exemple, si vous entendez la phrase « Il ne faut pas dire aller au coiffeur, mais aller chez le coiffeur ». On cherche à vous indiquer la bonne manière de parler, l'usage correct de la langue. Vous êtes donc face à un discours prescriptiviste. Tous les articles de journaux ou les contenus qui parlent de la langue et qui commencent par « ne dites plus » ou encore « 5 fautes à éviter en français » suivent la même logique. La notion même de faute de français répond à une vision prescriptiviste de la langue.
En parallèle, il y a ce qu'on appelle le descriptivisme, c'est-à-dire la volonté de décrire comment la langue est effectivement parlée et écrite par les locuteurs au quotidien, sans porter de jugement de valeur sur les pratiques linguistiques. C'est typiquement la démarche des linguistes qui veulent étudier scientifiquement la langue. Le but, c'est pas de chercher à savoir comment les francophones devraient parler le français, mais comment ils le parlent réellement et pourquoi. Si on prend l'exemple, par exemple, aller au coiffeur, c'est pas considéré comme une faute par les linguistes, dans la mesure où c'est une formulation qui est utilisée fréquemment par une partie de la population, mais ce qu'on appelle les fautes d'orthographe ou les fautes de français, c'est pour les linguistes que des variantes de la langue. Elles sont légitimes et intéressantes à étudier. Par exemple, face à une personne qui dirait les haricots avec la liaison, un prescriptiviste ferait sans doute un infractus en hurlant que la liaison est interdite par le H aspiré de haricot, alors qu'un descriptiviste, sans émettre de jugement de valeur, se contenterait de décrire. Tel pourcent des locuteurs prononce la liaison, tel pourcent ne la prononce pas, et on peut chercher ensuite à comprendre pourquoi elle est ou non prononcée. Selon le dictionnaire, les dictionnaires adoptent une démarche qui est descriptive ou prescriptive, pardon. Ça va dépendre. Ça va faire des choix différents pour choisir les mots et les définir dans ce qu'il va décrire.
Le dictionnaire de l'Académie française, par exemple, il a une approche qui est typiquement prescriptive. Il vise littéralement à définir la norme et le bon usage du français. D'autres dictionnaires, au contraire, comme le Larousse ou encore le Robert, ont une approche plus descriptive. Ils essayent de se baser sur l'usage pour construire leur dictionnaire, en particulier le Robert. Par exemple, quand ils se sont posé la question du féminin du mot « vegan », ces deux dictionnaires ont fait un choix différent. Larousse a écrit « une végane » avec un « e » en argumentant que cela permettrait de sonner moins comme un anglicisme, alors que le Robert l'a écrit sans « e » en se basant sur une enquête de fréquence. C'est donc une enquête qui consiste à demander à un large panel de personnes comment elles écrivent ou prononcent tel ou tel mot. Un autre dictionnaire très descriptif, c'est le « Wiktionnaire ». Un dictionnaire collaboratif en ligne, qui est en quelque sorte le petit frère de Wikipédia. Sur le Wiktionnaire, tous les mots attestés, c'est-à-dire utilisés en français et dont on en a la preuve, sont dignes d'être définis et décrits dans une page. Il permet donc de décrire les évolutions du français en temps réel, car il tente d'inclure tous les mots et expressions qui apparaissent dans l'usage. C'est pourquoi il compte pas moins de 400 000 entrées, soit près de 8 fois le nombre d'écrits, de mots décrits dans le dictionnaire de l'Académie française.
Donc, les différents dictionnaires ont donc des approches plus ou moins prescriptivistes, mais l'Académie n'a pas pour seul objet, son seul outil, son dictionnaire pour établir la norme qu'elle défend. On va le voir après, mais justement, l'Académie, elle a d'autres moyens d'affirmer son prescriptivisme. Ça passe pas que par les dictionnaires. Par exemple, sur son site internet depuis 2019, elle a une rubrique qui s'appelle « Dire et ne pas dire » qui rassemble toutes leurs recommandations en matière linguistique et qui laisse entrevoir une certaine orientation politique et idéologique qui est notamment portée par le prescriptivisme.
Donc effectivement, l'Académie, elle a une vision prescriptiviste, donc on n'arrête pas de le répéter, et plus largement, une vision assez conservatrice. Et c'est ce qu'on va voir en s'intéressant à cette fameuse rubrique.
Donc cette rubrique, c'est « Dire, ne pas dire ». C'est une sorte de blog qui se penche sur certains mots, certaines distinctions ou certaines manières de parler, et qui va faire des recommandations concernant des emplois que l'Académie considère comme fautifs en matière de choix de mots ou d'orthographe. Ça peut concerner des mots, des expressions particulières, et c'est souvent accompagné d'un commentaire et parfois d'explications, des fois on n'en a pas. Pour votre plus grand plaisir, voilà un petit florilège d'exemples qui sont tirés de « dire, ne pas dire ». Donc ça va être il y en a des exemples de prescriptions de l'Académie qui sont assez compréhensibles. Par exemple, l'expression « au jour d'aujourd'hui », elle est discréditée par l'Académie, qui argue que c'est une forme qui se répète, puisque « aujourd'hui », ça porte déjà l'idée que c'est ce jour-là, donc on n'est pas obligé de préciser « au jour ». Si je vous lis l'article, cette formule jouant sur la redondance a une résonance familière et plaisante. Pour parler de la journée présente ou de celle que l'on évoque, on préférera dire « aujourd'hui » ou « ce jour ». On peut aussi recourir à la tournure ancienne « ce jour-dui ». Ça, c'est la forme que ça prend, en fait. C'est des billets comme ça, qui sont courts, qui sont structurés comme ça. Pourquoi on ne doit pas le dire, s'il y a une explication, et quelles sont les formules à privilégier. Un autre exemple qui peut être compréhensible, c'est par exemple si on dit des carottes ou des pommes de terre frites. On devrait dire des carottes ou des pommes de terre frites, selon la règle de la conjugaison. En tout cas, c'est ce que nous demande l'Académie. On dit cuire des carottes cuites, donc on devrait dire frire des carottes frites. On a d'autres exemples, ça, c'est les plus cohérent, c'est les plus compréhensibles, mais il y en a d'autres, c'est vrai qu'on se pose un peu plus la question. Ça joue sur des détails, c'est pas forcément essentiel, en tout cas ça ne nuit pas du tout à la bonne compréhension. Si je vous dis par exemple la distinction entre la veille de et à la veille de. Selon l'Académie, on ne peut pas dire à la veille de la fête nationale pour parler du 13 juillet, mais il faudrait dire la veille de la fête nationale. C'est une distinction, c'est comme ça, c'est parce qu'il ne faut pas confondre les deux. Bon, c'est un choix. Un autre exemple, c'est le mot distance. On ne devrait pas dire c'est une distance proche. Il faudrait dire c'est une distance faible ou une petite distance, parce que la distance, ce n'est pas un point qui est proche ou loin, mais c'est une mesure qui est plus ou moins grande. Bon, ça, c'est questionnable.
Il y a aussi des exemples qui, pour le coup, n'ont pas du tout d'explication, comme par exemple le fait que l'Académie interdit le fait d'utiliser le verbe fuiter, qui est construit à partir de fuite pour désigner le fait qu'une information se diffuse contre la volonté de ceux qui l'ont émise. On a du mal à comprendre, en fait. Fuiter, c'est un verbe qui est construit de manière assez régulière, selon les règles de dérivation du français, avec le suffixe « er » qui indique un verbe. Mais non, l'Académie refuse l'utilisation du verbe « fuiter » et lui préfère des équivalents. Idem pour « incontournable ». Incontournable, selon l'Académie française, ça ne se dit pas. Pourquoi ? Encore une fois, pas d'explication.
Un dernier exemple de quelque chose qui est interdit sans explication, c'est par exemple « notifier ». Le verbe « notifier » pour dire « signifier quelque chose »,« montrer quelque chose ». L'Académie considère qu'il faut dire « notifier quelque chose » et pas « notifier de quelque chose ». Les deux s'utilisent et l'Académie ne fournit pas vraiment d'explication. Elle dit que c'est comme ça et c'est tout. C'est un peu ça aussi qu'on lui reproche, on le verra après. Donc un dernier point ensuite central dans ces billets, c'est vraiment le combat contre les anglicismes. L'Académie déteste les anglicismes et lutte contre ces anglicismes de manière proactive. Donc par exemple les termes de smoking, de relate au sens de je compatis, je comprends ce que tu veux dire. Il faudrait dire je suis d'accord avec ce que tu dis. Sauf que là on se rend compte que des fois les anglicismes comporte une notion qui est différente du sens en français, et c'est là où c'est difficile, c'est que l'Académie refuse par principe tous les termes anglophones, en tout cas qui sonnent comme anglais, pour des raisons purement idéologiques en fait, alors qu'ils peuvent avoir des notions différentes qui ne se recoupent pas totalement. Donc voilà. Et de manière générale, ils aiment bien lutter contre les anglicismes et contre les sigles qui font anglais, même si bon, ils ont accepté de dire un laser ou une radio, alors qu'à la base c'est des anglicismes, mais voilà.
Dans cette rubrique, on retrouve un certain nombre de jugements de valeur en réalité sur la langue, avec parfois même des étymologies erronées. On est allé voir quelques-unes des étymologies. Et...
Par exemple, oui, j'y pensais, l'exemple de distanciel et présentiel. C'est un exemple, c'est des mots qui avaient été sanctionnés par l'Académie, qui ne déconseillaient leur usage parce que c'était censé être des anglicismes, alors qu'en réalité, pas du tout.
Oui, ça venait pas du tout de l'anglais. Et donc, on voit qu'il y a. Il y a un côté systématique de combattre les anglicismes pour combattre les anglicismes sans réelle volonté derrière et surtout sans explication linguistique. Parce que, on le rappelle, les anglicismes, ce sont des emprunts et les emprunts, ils ont toujours existé dans la langue. Ils font partie des phénomènes qui permettent de créer du lexique dans une langue. Ils ne datent pas d'hier et ils ne vont pas s'arrêter demain. Donc globalement, ce combat contre les anglicismes, il s'entoure l'idée qu'il faudrait préserver la pureté de la langue française, que la langue française ce serait un patrimoine en fait à conserver qu'il ne faudrait pas écorcher, ne pas écorcher la langue de Molière, pour reprendre l'expression consacrée. L'Académie, elle diffuse donc une sorte de français idéalisé, une vision fantasmée d'une langue parfaite, ou en tout cas qui aurait été parfaite par le passé, mais qui serait aujourd'hui en déclin, menacée par des anglicismes et par les évolutions linguistiques en général. Pour appuyer cet argumentaire, l'Académie se base sur la littérature française, auquel elle voue une espèce de culte. La littérature est jugée comme supérieure du temps de Corneille ou de Voltaire ou encore de La Fontaine, qui sont aujourd'hui en réalité placés comme des figures de ce que devrait être le français, un français correct et un français rayonnant. Et pour autant, à l'époque où ces auteurs ont écrit, l'Académie n'était pas si positive vis-à-vis de leurs écrits. On a ce qu'on appelait la querelle du Cid. En 1637, Corneille crée sa pièce Le Cid. Et à l'époque de sa création, en réalité, d'importantes critiques de l'Académie française sont essuyées par la pièce de Corneille. Elle est décrite comme ayant un style trop populaire, trop subversif. L'Académie propose un certain nombre de corrections. Elle veut même réécrire certains passages et les imposer à Corneille. Et c'est la même chose pour Molière ou pour La Fontaine, dont des projets de réécriture de leurs œuvres, épurés de toutes les fautes de langage qui s'y sont glissées, c'est Voltaire qui dit ça, ce qui nous semblerait assez fou aujourd'hui. Enfin, vous imaginez l'Académie qui, à l'époque de Corneille, voulait réécrire les œuvres de Corneille parce qu'elle ne les jugeait pas assez pertinentes et assez bien écrites en réalité pour le standard de l'époque.
Donc l'Académie, elle a globalement, elle est plutôt tournée vers le passé, elle le glorifie et l'idéalise, et elle est fondamentalement hostile à tout changement. Parfois ça peut changer, mais c'est une tendance de fond qu'il y a dans l'Académie et qu'on retrouve, qui est aussi la conséquence de leur vision prescriptiviste. Il s'agit de dire comment on parle avec une vision idéalisée de la langue, dans laquelle on va s'appuyer sur des grands auteurs qui sont des références et qui vont nous servir de base pour construire une langue qui est noble, qui est épurée de toute faute ou de tout problème.
On peut illustrer ça avec l'idée que, en fait, l'Académie française, elle est fondamentalement tournée vers le passé, un passé qui est glorifié et idéalisé, notamment, et qui finalement la pousse à s'opposer à tout changement de la langue, à tout changement linguistique. Ça s'illustre par leur opposition et leur combat contre l'écriture inclusive, par exemple, qui se diffuse ces dernières années. L'écriture inclusive, rappelons-le, c'est l'ensemble des outils linguistiques qui permettent de compenser en fait le sexisme inhérent à la langue et de représenter toutes les personnes dont on parle en respectant leur genre. L'arrivée de l'écriture inclusive a provoqué une réelle panique morale parmi les réactionnaires et notamment un certain nombre d'académiciens. L'Académie a même fait une déclaration sur l'écriture inclusive en 2017 dans laquelle elle dit « Devant cette aberration inclusive, la langue française se retrouve désormais en péril mortel, ce dont notre nation est dès aujourd'hui comptable devant les générations futures. »
Bon, c'est assez terrifiant, mais en soi l'argumentaire est quand même assez faible. Un des arguments principaux, on y reviendra sans doute dans une prochaine émission parce que c'est pas notre thème aujourd'hui, mais c'est très intéressant, c'est par exemple la question du manque de lisibilité, le point médian qui sert à signifier, à rajouter la forme féminine en fin de mot, serait illisible et compliqué à lire, notamment pour les dyslexiques ou les personnes qui ont des difficultés de lecture. Bon. Dans tous les cas, ça c'est un argument qui revient souvent, on en reparlera plus tard, mais ça fait partie de l'argumentaire de l'Académie. Ça s'inscrit dans sa vision qui est passéiste et on l'observe aussi dans certaines définitions qu'elle donne. C'est ça qui est intéressant, c'est que son dictionnaire, en fait, il laisse transpirer l'idéologie qu'il y a derrière et le passé, en fait, enfin le contexte culturel dans lequel vivent les membres de l'Académie. Donc Arsène va vous présenter quelques exemples de définitions assez intéressantes.
Exactement, oui. Donc c'est cette 9e édition particulièrement qui a été beaucoup commentée pour des définitions qui étaient jugées assez problématiques. Le 26 novembre 2024, donc juste après l'apparition du 4e tome du 9e dictionnaire, la Ligue des droits de l'homme a demandé à l'Académie française de rectifier d'urgence certaines définitions jugées problématiques. Par exemple, la définition qui est donnée du mot « race », je vais vous la lire. « Chacun des grands groupes entre lesquels on répartit superficiellement l'espèce humaine, d'après des critères physiques distinctifs qui se sont maintenus ou sont apparus chez les uns ou les autres. » La Ligue des droits de l'homme, elle accuse l'Académie française de ne prendre aucune distance vis-à-vis de ces définitions racistes, fondamentalement, qui ne sont même pas signalées comme discriminantes ou péjoratives dans le dictionnaire. Autre exemple, la femme est qualifiée dans le dictionnaire d'un être humain défini par ses caractères sexuels qui lui permettent de concevoir et de mettre au monde des enfants. Si la définition est peut-être un peu meilleure que celle de la toute première édition de l'Académie française qui indiquait « femelle de l'homme » à l'entrée « femme », la nouvelle définition réduit néanmoins la femme à sa capacité de conception. La Ligue des droits de l'homme ironise « faut-il en conclure qu'une femme stérile ou ménopausée n'en est pas une ?»
Donc tout ça, ça fait qu'on peut se poser légitimement la question de l'orientation politique de l'Académie et remettre un peu en question ce que déclarait Emmanuel Macron pompeusement à l'Académie.
« Dictionnaire dans votre langue ?» ne rime pas avec réactionnaire et vous parvenez à cet oxymore, produire de l'immortel contemporain.
Voilà une grande déclaration sur l'orientation politique de l'Académie qui se voit un peu mise à mal par ce qu'on a vu avant.
Malgré ce qu'on pourrait appeler les maladresses de l'Académie, on peut être tenté de croire que finalement c'est un mal nécessaire, que l'Académie joue tout de même un rôle crucial et essentiel pour maintenir une certaine cohérence au sein de la francophonie, une cohésion linguistique, car sinon la langue risquerait d'éclater en une multitude de variantes locales qui petit à petit deviendraient incompréhensibles entre elles. Mais est-ce qu'une langue a réellement besoin d'une institution comme l'Académie française pour garder de sa cohérence? Et bien pour répondre à cette question, Baptiste va nous présenter quelques institutions cousines de l'Académie pour voir ce qui se fait de mieux chez nos voisins.
Vous écoutez Délit de langue sur Prune.
Pour aller trouver de l'inspiration et prendre un peu de distance vis-à-vis de l'Académie, on va embarquer pour un petit tour du monde radiophonique. Donc, c'est des exemples internationaux que je vais prendre et ça va peut-être nous aider à éclairer l'importance ou non de l'Académie et nous donner des idées pour pouvoir réfléchir à une potentielle réforme de l'Académie. En tout cas, nous, c'est l'idée qu'on a derrière. Pour commencer, on peut déjà parler de la langue anglaise. Et la langue anglaise, ben, gros sujet, déjà, c'est un piège. La langue anglaise n'a pas d'académie, il n'y a pas d'institution qui est comparable à une académie pour l'anglais. Il y a certes, comme dans toutes les langues, des standards qui sont considérés comme plus élevés, qui sont considérés comme de meilleures formes de la langue, par exemple l'anglais de la reine, hein, on pense à ça, mais il n'y a pas à proprement parler d'académie. Ça n'existe tout simplement pas et nulle part dans le monde anglophone. C'est même pas une exception britannique, c'est vraiment dans l'intégralité du monde anglophone. Voilà, ça peut déjà nous faire réfléchir un petit peu. Si on prend un autre exemple dans lequel il y a effectivement une académie, c'est pour nos voisins espagnols. Ils ont la Real Academia Española. Donc c'est l'Académie Royale Espagnole. Elle a un rôle très similaire à notre académie. Donc elle a pour but d'écrire un dictionnaire. Et pour ça, à la différence de notre académie, elle est accompagnée d'un institut de lexicographie. Donc qui est constitué, comme son nom l'indique, de lexicographe. Donc les spécialistes du dictionnaire. Une autre différence avec notre académie, c'est que la conception du dictionnaire n'est pas linéaire. On ne commence pas à la lettre A pour finir à la lettre Z. C'est aussi ça qui explique que la rédaction du dictionnaire de l'académie prend autant de temps en France. C'est que quand on commence à la lettre A, on va traiter toutes les entrées une à une. On va faire toutes les lettres, tous les mots qui commencent par A. Et ensuite, on va aller jusqu'à la lettre Z.
Par exemple,
explique la grande distance entre les deux.
Le premier tome du 9e dictionnaire de l'académie, il allait de la lettre A jusqu'au mot enzyme.
Donc c'est quelque chose qui est assez... morcelé en fait, et à la différence, l'Académie royale espagnole, elle va fonctionner comme la création des lois en fait dans notre Assemblée nationale. Ce qui va se passer, c'est qu'on a le dictionnaire qui est déjà écrit, précédent, on va essayer de le modifier progressivement, on va rajouter des amendements pour modifier certaines définitions, on va pouvoir faire des propositions d'ajout, tout ça assisté par les lexicographes qui sont de l'Institut de lexicographie derrière. Donc ça, cette académie, elle est réputée plus progressiste que la nôtre, mais c'est aussi dû à la conception, à la manière qu'elle a de fonctionner. Si on voyage un peu plus loin, on se rend compte que toutes les académies n'ont pas les mêmes buts, à cause des contextes culturels et linguistiques différents. On voit, en fait, à travers toutes les langues, nous, avec l'espagnol, on a une histoire qui est assez commune. On a une position à l'échelle mondiale entre le français et l'espagnol qui est assez similaire. On est une grande langue qui n'a pas besoin de se défendre, mais toutes les académies n'ont pas cette même place. Et donc, en fait, les académies, elles vont avoir des rôles complètement différents en fonction des positions des langues à l'échelle internationale. L'allemand, si on prend l'allemand, lui, il a une vision un peu différente. Il a plusieurs sous-académies. Il en a une qui se charge uniquement de l'orthographe, uniquement de la diffusion de la langue allemande dans le monde, une de la direction des recherches scientifiques sur la langue allemande, etc. C'est une particularité. Et parmi les sous-académies, celle qui ressemble le plus à notre académie, en fait, elle est dirigée par un linguiste. Elle est composée de linguistes, entre autres, et elle publie deux revues linguistiques. Donc elle a un lien très différent avec l'académie, de notre académie avec la linguistique. Si je reprends l'exemple de langues plus différentes qui ont des fonctionnements très différents en raison de leur position, eh ben on peut prendre par exemple les langues kanak. Donc les langues kanak, c'est des langues qui sont parlées en Nouvelle-Calédonie. Elles ont une académie aussi. C'est une académie qui n'est pas spécialement pour une seule langue. C'est une académie qui reprend toutes les langues kanak, donc, c'est-à-dire une quarantaine, et qui va essayer de les promouvoir, de les sauvegarder. C'est une mission qui est complètement différente de l'académie française. Elle ne cherche pas à écrire un dictionnaire. Sa mission principale, c'est déjà de sauver les langues qui sont en danger. C'est la même situation pour l'Académie des langues mayas du Guatemala, qui a en charge 21 langues mayas. Et donc ces académies, elles sont beaucoup moins tournées vers la littérature et beaucoup plus vers la sauvegarde de la langue. À l'autre extrême du spectre, on a l'Académie Sahitya de Gujarati, donc qui est chargée de veiller sur la langue Gujarat, le Gujarati, qui est parlé dans l'état du Gujarat dans l'ouest de l'Inde. Et elle, à l'inverse, elle se concentre beaucoup sur la promotion des littératures, elle décerne des prix, elle va même jusqu'à financer des auteurs de langue gujarati qui ont des difficultés à cause de leur âge, de soucis de santé ou de handicap. Ils n'ont pas du tout une volonté de créer un dictionnaire, c'est vraiment une espèce d'institution qui protège les auteurs et qui veut promouvoir la littérature dans cette langue. Donc ça, c'était un rapide tour du monde pour vous montrer ce qu'on peut faire et tout ce qu'on regroupe sous le terme d'académie, mais en réalité, ce n'est pas fini. Il y a une question qu'on n'a pas abordée. Et je suis sûr que cette question vous brûle les lèvres. Comment ça se passe dans les autres pays francophones? Est-ce qu'il y a des académies au Québec, en Belgique ou au Congo?
Eh bien, on va répondre tout de suite à cette question. La réponse est oui. En fait, l'Académie française n'est pas du tout la seule autorité linguistique de la francophonie. En Afrique, elle reste une figure d'autorité, mais au Québec, en Belgique ou en Suisse, il y a d'autres institutions qui la remplacent. Au Québec notamment, on a le très influent Office québécois de la langue française, OQLF, qui lutte avec acharnement contre les anglicismes et a son propre dictionnaire. En France, on les connaît surtout pour être l'auteur d'inventions ou de faire connaître des nouveaux termes pour remplacer les anglicismes. Divulgâcher pour remplacer spoiler, courriel pour email, égoportrait pour selfie, infolettre pour newsletter et plein d'autres. Contrairement à notre académie, l'OQLF, elle a un pouvoir réel au niveau légal et elle peut recommander ou normaliser certains termes qu'il publie dans l'équivalent du journal officiel québécois. Ça fait que, légalement parlant, c'est possible pour une entreprise de recevoir une amende pour avoir utilisé un mot qui était interdit.
En Belgique, il y a l'Académie royale de langue et de littérature française de Belgique qui a un rôle exclusivement littéraire. Donc elle remet des prix, elle publie des critiques ou des œuvres littéraires belges. Les académiciens sont répartis en deux catégories, la catégorie des littéraires et la catégorie des linguistes, entre guillemets, même si c'est un peu plus compliqué. Mais en tout cas, l'idée, c'est ça, c'est qu'il y ait aussi des gens qui ont une expertise sur la langue, même si c'est juste de la littérature. Encore un exemple dont on pourrait peut-être s'inspirer en France. Et justement, en France, l'Académie n'est pas du tout la seule. On en avait parlé dans l'épisode sur les politiques linguistiques, donc au mois de février, mais en fait, il existe d'autres choses, d'autres institutions qui sont chargées de discuter de la langue, de discuter de projets politiques sur la langue, et notamment les deux grands en France qu'on peut citer, la Commission d'enrichissement de la langue française et la DGLFLF. La Commission d'enrichissement de la langue française, comme son nom l'indique, son but, c'est d'enrichir la langue française.
Tout simplement.
Exactement. Donc, elle a pour but de créer des néologismes ou de promouvoir leur usage, quand il s'agit notamment d'anglicisme. Elle a un peu le rôle de l'OQLF. Et elle, pour le coup, à la différence de l'Académie, parce que ça, c'est aussi quelque chose d'important, c'est que l'Académie, comme on l'a dit, elle n'a pas de valeur légale. Elle n'est pas capable de promouvoir des textes de loi. La Commission d'enrichissement de la langue française, elle peut décréter que tel mot ne doit pas être utilisé, ou qu'il doit être utilisé, en tout cas pour remplacer certains termes. C'est un usage qui est obligatoire dans les administrations ou les établissements de l'État. L'Académie travaille avec la Commission d'enrichissement de la langue française, mais au final, c'est quand même cette commission qui a le pouvoir légal. Le deuxième grand, c'est la DGLFLF, la Délégation Générale à la langue française et aux langues de France, que je vais abréger par DGLF, parce que c'est plus simple. Donc elle, c'est un peu notre véritable Académie en France. Elle a des compétences qui sont beaucoup plus larges. Elle parle au creux de l'oreille des politiques. Son but, c'est d'enseigner le français aux étrangers, de gérer la question des langues régionales, de publier un dictionnaire en ligne qui s'appelle le Dictionnaire des francophones, qui est aussi un dictionnaire collaboratif, de promouvoir et de sauvegarder les langues régionales, de publier des rapports sur le français et les langues de France. Donc voilà, elle a vraiment des compétences qui sont très larges. Elle est composée de linguistes et d'autres spécialistes. Donc c'est vraiment quelque chose qui, d'une certaine façon, remplace l'Académie dans beaucoup de domaines. Donc voilà, ça c'était en France. Et dans le monde. J'espère que ça vous a intéressé. En tout cas, ça nous donne beaucoup d'idées.
Exactement. On va bientôt passer à la dernière partie de notre émission, mais avant ça, on va se détendre un petit peu avec une deuxième pause musicale. On écoute Zombie des Cranberries.
Mais voilà, c'était Zombie des Cranberries. Donc c'est une musique qui va introduire parfaitement cette dernière partie de l'émission. C'est une partie où on va se demander s'il ne serait pas temps d'enterrer l'Académie française.
En effet, même si la formulation peut paraître un petit peu violente, il nous semble important de questionner les institutions établies, en particulier celles qui s'arrogent la légitimité à nous dire comment parler. On l'a vu, l'Académie française porte un discours prescriptif basé sur une autorité qui ne permet aucune remise en question et un argumentaire construit sur une vision un peu fantasmée d'un français en déclin. Elle alimente et s'alimente de discours alarmistes diffusés par exemple dans le Figaro où des académiciens viennent régulièrement s'exprimer et qui sont ensuite repris sur divers médias et plateformes. Cette vision d'un français prestigieux qu'il faudrait garder pur à tout prix et ne surtout pas écorcher d'erreurs a des conséquences réelles sur les locuteurs du français. Il peut générer ce qu'on appelle de l'insécurité linguistique, c'est-à-dire une crainte de mal parler sa propre langue, de ne pas avoir assez de vocabulaire ou de ne pas assez maîtriser la grammaire du français pour être légitime à parler en public, à produire des textes ou à s'exprimer en français de manière générale. Ainsi privés du pouvoir qu'ils devraient avoir sur leur langue, les francophones se brident et font preuve de moins d'inventivité et de créativité dans leur production langagière. Ainsi, en contrepartie de cette dépossession des locuteurs de leur propre langue, l'Académie française ne nous apporte pas grand-chose. Son dictionnaire anachronique et incomplet peut être avantageusement remplacé par d'autres dictionnaires plus descriptivistes, comme le Robert ou le Wiktionnaire. Son site internet et sa rubrique « Dire, ne pas dire » proposent un contenu assez imprécis qui s'attarde sur des détails et chipote sur des usages jugés incorrects, sans expliquer pourquoi ou en invoquant des raisons linguistiques souvent erronées.
Ça, en fait, c'est le problème central de l'Académie, c'est qu'elle n'a aucune expertise linguistique. Il n'y a quasiment jamais eu de linguiste parmi les immortels, ce qui explique sans doute leur échec à concevoir une grammaire, la fameuse de 1932. Les académiciens sont pour la plupart des écrivains, des amoureux de la langue française, comme on dit, et peut-être qu'il manque d'une certaine objectivité et d'une rigueur scientifique qui est nécessaire pour travailler sérieusement sur la langue française. C'est d'ailleurs bien là le rôle des lexicographes. L'Académie française, d'ailleurs, n'a pas d'autorité officielle, comme on l'a dit, elle n'a pas de pouvoir législatif. Et donc, les linguistes ne s'appuient plus depuis longtemps sur son expertise en matière de langage. On peut, à juste titre, se demander si l'Académie française n'est pas devenue un peu inutile. Déjà en 2017, Eliane Vienneau, qui était professeure de littérature et historienne, accusait les académiciens dans un article de Libé de torpiller depuis plus de 30 ans toute l'évolution égalitaire du français. Pour elle, il n'y a aucun doute, il est temps, je cite, de débrancher l'Académie française. Et même les académiciens sont bien obligés de le reconnaître et de reconnaître leur imposture en quelque sorte. Écoutez ce que disait François Sureau, académicien au plateau de Quotidien en juillet 2022.
Elle sert à quoi en 2022 cette académie ?
Ah bah, grâce au ciel, elle sert à rien. L'académie, elle n'est pas là pour servir, elle est. C'est merveilleux, une institution qui ne sert à rien et qui groupe simplement des gens qui viennent à peu près de partout en réalité, mais dont le seul lien est l'amour de la langue française et la littérature.
Mais vous réunissez, je crois, une fois par semaine ? Les jeudis.
À 15h. Ouais.
Qu'est-ce qui se passe ?
Il ne se passe rien, c'est merveilleux. Non, j'exagère, bien entendu.
Derrière cette autodérision se cache en réalité quelque chose de plus en plus flagrant, le fait que l'Académie n'a pas d'utilité intrinsèque. Être académicien aujourd'hui, c'est un titre honorifique plutôt qu'une réelle fonction. Les immortels sont des icônes symboliques entourées de tout un folklore et d'une aura très solennelle. Quand on regarde le costume de l'académicien avec cette veste brodée à 35 000 euros et cette épée complètement anachronique que doivent arborer les immortels, on peut y voir le signe d'une institution vieillissante qui, loin de réussir à réellement préserver la langue française, sert plus en réalité de fin de carrière glorieuse et confortable pour des politiciens ou des hommes de lettres divers.
C'était la fin. Notre émission touche à sa fin, là. Donc, si on peut résumer toute l'émission, on peut dire que l'Académie, c'est une vieille institution qui n'est pas forcément très efficace pour faire la seule mission qu'on lui a confiée, à savoir écrire des dictionnaires, qui n'a aucune expertise scientifique dans le domaine qu'elle traite et qui pourrait s'inspirer d'autres académies à travers le monde ou la francophonie, mais qui finalement fait juste concurrence et vole la lumière à d'autres organes bien plus sérieux et efficaces, comme par exemple la DGLF. Voilà.
Notre but dans cette émission, c'était un peu de remettre en cause et de désacraliser cette institution, donc, qui est encore si légitime dans l'esprit de tellement de personnes, mais répandant tant de fausses idées sur le français que la nécessité de vous en préserver nous a paru urgente.
C'était évidemment du Ferdinand Bruno dans le texte. Pour finir, on n'a pas pu résister à l'envie de conclure cette émission par les mots acerbes de Pierre Desproges, donc humoriste célèbre du XXe siècle, sur les académiciens. C'était en 1982 dans le cadre de son émission radio « Le tribunal des flagrants délires » et il est très incisif.
Quand il a fini d'écrire des conneries dans le dictionnaire, à quoi sert un académicien français ? À rien. À rien du tout. Non mais regardez-le, mesdames et messieurs les jurés. Voyez ce triste spécimen de parasite de la société qui trémousse sans vergogne son arrogance de nanti sur le banc vermoulu de l'infamie populaire. Voyez-le glandouiller sans honte dans ce minable tribunal de pitres grotesques, à l'heure même où des millions de travailleurs de ce pays suent sang et eau dans nos usines, dans nos bureaux et même dans nos jardins, où d'humbles femmes de la terre arrachent sans gémir à la glèbe hostile les glorieuses feuilles de scarole destinées à décorer les habits verts des 40 plésiosaures grabataires qui souillent le quai Conti du chevrotement comateux de leurs pensées séniles.
C'était Pierre Desproges.
Ainsi s'achève cette émission. Merci beaucoup de l'avoir écoutée. N'hésitez pas à nous écrire à l'adresse mail de Daily de Langue.
dailydelangue@proton.me. Daily au singulier, langue au singulier, tout en minuscules et sans accent.
C'est toujours super important pour nous d'avoir vos retours et vos commentaires. Nous, on se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, portez-vous bien.